Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Bernard Stiegler, qui publie « Mécréance et discrédit, Thomas, la décadence des démocraties industrielles » aux éditions Galilée. La question est donc celle d'un combat qu'il s'agit de mener et d'une volonté qui pose un état de droit, qui pose en principe la différence entre le droit et l'état de fait dominant, imposé par des forces qui elles-mêmes combattent, mais qui, elles, combattent la singularité. Directeur de l'IRCAM, Bernard Stiegler, après avoir été, entre autres, directeur de l'INA, et chez Galilée, vous avez publié une dizaine de livres, parmi lesquels « La technique et le temps », c'est une trilogie. Un livre avec Jacques Derrida, « Échographie de la télévision », 1996. « Aimer, s'aimer, nous aimer », du 11 septembre au 21 avril, c'était en 2003, et plus récemment, de la misère symbolique 1, parce que souvent vous procédez par série, l'époque hyper-industrielle et philosophée par accident, entretien avec Elie Düring. Des livres publiés en 2004 et dont vous étiez venu d'ailleurs parler du jour au lendemain. Et je me souviens qu'après la publication de Aimer, s'aimer, nous aimer, on n'a pas hésité à vous taxez de pessimiste plutôt. Hein.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que pendant une bonne quinzaine d'années, avant même les premières publications, parce qu'avant de publier chez Galilée, j'avais déjà publié des articles un peu partout et fait des séminaires à droite à gauche, notamment au Collège de philosophie. Donc j'étais à un moment donné directeur de programme. On avait tendance à me taxer d'optimisme. Et on me disait, mais tu es vraiment trop optimiste. Et je répondais toujours, mais je suis pas du tout optimiste. Le problème n'est pas d'être optimiste ou d'être pessimiste.
C'est d'être réaliste, comme disait Nietzsche.
Le problème, c'est d'être réaliste et c'est d'analyser des processus dans lesquels il y a des rapports de force. Et donc, le problème, c'est de se battre. C'est de se battre pour permettre que ces rapports de force soient au service de la vie plutôt que de la mort, pour parler de manière un peu simple mais efficace. Alors il est vrai que depuis 2-3 ans, j'ai précisé un certain nombre de positions que je développais dans La technique et le temps, qui sont des ouvrages, disons, de facture métaphysique. Enfin, je suis pas un métaphysicien, mais dans le registre des gens qui font de la critique de la métaphysique de Kant ou de Heidegger ou de Husserl ou de choses comme ça, toujours en relation avec la question de l'évolution technique, dont je pense que la métaphysique se caractérise par le fait qu'elle n'arrive pas à la penser, précisément. C'est ça ma thèse de base. Il se trouve que à partir de 2002 et d'une série d'événements qui sont premièrement le 11 septembre, qui est en fait 2001, mais qui est une évidemment pour moi ce que j'appelle une catastrophe. Non pas une catastrophe, mais une catastrophée, au sens où la rhétorique emploie le mot de catastrophée. Catastrophée désigne un épisode terminal d'une histoire. 11 septembre 2001, 21 avril 2002, entre les deux, 26 mars 2002, assassinat d'une partie des conseillers municipaux de Nanterre par Richard Durne, et puis beaucoup d'autres événements. Tous ces processus m'apparaissent constituer une série. Il y a une logique qui relie tout ça, ou plutôt une illogique qui relie tout ça, une folie qui relie tout ça, et je pense que cette folie relève d'un problème que j'ai déjà instancié auparavant dans d'autres livres, en particulier un livre qui s'appelait La désorientation, qui est paru en 1996, où je disais que le développement technologique était inéluctable et qu'il fallait non seulement l'accompagner, mais le vouloir. Mais que vouloir ce développement, c'était justement pas se livrer pieds et poings liés à un devenir aveugle, mais c'était mener une politique de ce développement, une véritable politique, et non pas un abandon à l'expression pure et simple, brutale, des forces dites modernistes, d'un côté, et des archaïsmes de l'autre. Parce que ces forces modernistes m'apparaissent extrêmement archaïques elles-mêmes, et ces archaïsmes sont souvent ultramodernes dans leur manière d'être archaïques, si je puis dire, et c'est le même processus de que j'appelle une décomposition qui se met là en œuvre. Alors, depuis quelque temps, j'ai décidé d'abord de politiser mon discours. Quand je dis de le politiser, ça n'est pas de me mettre à faire de la politique, mais c'est simplement d'accentuer ce que, semble-t-il, mes lecteurs ne discernaient pas toujours de manière évidente dans mes livres précédents, même si je crois que certains l'avaient bien vu, à savoir que je fais de la philosophie politique. Ça a toujours été le cas à mes yeux, mais disons que je ne l'exprimais pas forcément dans les canons de ce qu'on appelle une philosophie politique. Je ne parlais pas effectivement de manière explicite des problèmes d'organisation sociale, de rapport au droit, de choses comme ça, en tant que tel. J'ai décidé de le faire parce que je pense que nous sommes entrés dans une phase, depuis quelques années, de très grand danger. Mais c'est pas pour autant que je me définirais comme pessimiste. Ça fait des années que je pense que nous allons vers ce devenir. Je me dirais tout simplement lucide et réaliste, en effet. Un réalisme que je veux opposer au réalisme de Patrick Lelay de TF1. Oui. Qui lui-même se dit réaliste, et dont je crois qu'il ne l'est pas du tout. Voilà.
Alors là, ce livre qui paraît chez Galilée s'intéresse à la décadence des démocraties industrielles. C'est le premier volet d'une série qui en comportera je ne sais combien.
Au moins deux.
Sous le titre « Mécréance et discrédit ». Donc il montre bien que la croyance est la grande affaire.
Oui, la croyance, c'est la grande affaire. Et j'essaye de faire une archéologie de la question moderne de la croyance. En général, on affecte, si je puis dire, le problème de la croyance à une question religieuse, particulièrement au monothéisme, ou bien à une vulgaire crédulité. J'ai été très frappé, je voudrais, puisque c'est la première fois que je passe dans votre émission depuis la mort de Jacques Derrida, je voudrais saluer sa vie et son œuvre immense. J'ai été très frappé par un texte qu'avait écrit Derrida, que j'ai commenté d'ailleurs moi-même dans un article qui est paru aux États-Unis mais pas en France, qui s'appelait « Foi et savoir », dans un recueil de textes réunis par Vatimo sous le titre « La religion », dans lequel Derrida montrait que la question de la croyance et de la foi était beaucoup moins simple qu'on pouvait le croire après les Lumières, en particulier, il était beaucoup moins évident qu'on ne pouvait le croire que cette question ait été résolue par une position claire de la rationalité, etc. Et qu'il y avait toujours une croyance engagée dans tout acte de pensée authentique, si je puis dire. Je mets le mot entre guillemets. Bon, je vais pas m'apesantir sur tout ce qu'il y aurait à dire de ce texte-là, ce serait complexe, mais quoi qu'il en soit, je crois comme Derrida, et avec Derrida, et beaucoup depuis que j'ai lu ce texte de Derrida, que il faut revisiter très en profondeur cette question de la croyance. Et c'est ce que je me suis attelé à faire dans ce livre, parce que, je dois vous dire que ce livre, j'avais pas du tout l'intention de l'écrire, il y a encore 6 mois. J'avais un programme, moi j'écris tous les étés, enfin j'ai un programme d'écriture, parce que comme vous le savez, j'ai des fonctions de direction d'une institution qui m'occupe beaucoup, donc je n'écris que dans des moments bien spécifiques, et j'avais prévu cet été d'écrire le quatrième tome de La Technique et le Temps. Mais, en même temps, il y avait eu le 13 juin dernier, autre événement de la série dont je parlais tout à l'heure, des élections européennes, qui ont conduit à une catastrophe politique à mes yeux, ou une catastrophe politique, à savoir un taux d'abstention absolument record, dans un moment qui en principe devait être un moment historique. Donc un processus de désaffection, avant même que les choses n'aient commencé, tout à fait consternant et très 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 inquiétant. Et j'ai donc décidé d'écrire un petit texte, en disant comment je recevais moi-même ce que j'appelais la mécréance des Européens, c'est-à-dire le fait qu'ils ne croient pas à l'Europe. Et du coup, c'est devenu un texte plus important que prévu, un bouquin de 200 quelques pages, qui m'a amené...
Et qui en annonce un autre.
Et qui en annonce un autre, effectivement, parce que ça a pris de vastes proportions, et qui m'a amené à me repencher sur le rapport entre capitalisme et croyance. Mmh. À savoir que Max Weber, pour foncer tout de suite au cœur du propos, finalement, Max Weber, au début de ce siècle, a bien montré comment le capitalisme était un nouveau rapport à la croyance. Non pas qu'il n'y ait pas de croyance dans le capitalisme, parce que je développe beaucoup ce point-là dans ce livre, le capitalisme c'est d'abord du crédit. Le capitalisme fonctionne par le crédit qu'il fait à l'avenir. Mais, quand je dis le crédit qu'il fait, c'est le crédit que le consommateur fait à la marchandise, le crédit que le commerçant fait au consommateur, enfin c'est tout un ensemble, un complexe de crédits divers, mais dont on voit très bien avec Max Weber que dès le XVIIIe siècle, les premiers entrepreneurs capitalistes au sens de Max Weber, parce que c'est pas le sens tout à fait de Marx, s'attachent à rendre la croyance calculable. C'est-à-dire que la croyance devient l'investissement, le crédit en tant que calcul du retour sur investissement, et ces premiers capitalistes qui sont en général d'origine protestante, en tout cas chrétienne, disons, mais la plupart du temps ce sont des protestants, pour être plus précis, des calvinistes, ou des gens inspirés par le calvinisme, et par l'éthique protestante, comme dit très clairement Max Weber, ils viennent d'une croyance religieuse, mais ils transforment cette croyance religieuse en une croyance dans l'innovation. Et c'est ce qui conduit à ces textes absolument incroyables que déjà Georges Bataille avait commenté dans La Part maudite en 1949. J'ai relu d'ailleurs, et je commente un tout petit peu Bataille sur ce point, il avait très très bien vu la question. Ça donne ces textes absolument incroyables de Max Weber, Benjamin Franklin, commenté par Max Weber, où Benjamin Franklin explique que pour être un fidèle à l'idée de Dieu, selon Luther en fait, il faut gagner de l'argent, parce que il faut rendre mesurable la participation à la création divine par un gain calculable précisément en dollars. Mmh. Et ça m'a amené à commenter cette réalité tout à fait étonnante quand même, quand on y pense, qui est que, outre que un grand pays très moderne comme les États-Unis garde une référence à Dieu sur son billet, sur sa monnaie, il dit, la devise de ce billet vert, c'est non pas in God we believe, mais in God we trust. Or, ça c'est très très important, parce que cela signifie que dans ce processus qui va se développer essentiellement aux États-Unis, en Pennsylvanie au départ, selon Max Weber, c'est en tout cas là qu'il prend ses exemples, on voit comment le problème de la croyance se transforme en problème de la confiance. Et qu'en fait, il y a un abus qui consiste à faire comme si la confiance était une modalité particulière de la croyance, alors que pour ma part, je crois que la question de la confiance est antinomique d'un rapport de croyance. Mmh. Je veux dire par là que la confiance, en tout cas telle que définie par le trust du billet vert, qui est aussi celui de Benjamin Franklin, qui a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire des États-Unis, c'est la question d'une calculabilité. Alors que la croyance, c'est nécessairement la croyance dans ce qu'on pas calculer.
Mmh. Mais dans confiance, comme dans fiduciaire d'ailleurs, il y a foi.
Il y a foi et il y a fidélité. C'est donc en effet une machine à fabriquer de la fidélité, mais une fidélité qui va se transformer au fil des décennies en une fidélité aux marques. Car finalement, c'est de ça que je pars. Dans ce livre, je ne pars pas de Max Weber, c'est plutôt un point d'arrivée, Max Weber. Dans ce livre, je pars plutôt de une souffrance politique, et une souffrance politique que j'appelle une décadence de la démocratie industrielle, ce qui est évidemment extrêmement lourd comme propos. Je sais que, d'ailleurs j'ai pris quelques précautions dans le livre, j'ai anticipé toutes les critiques qu'on va me faire, que le mot décadence apparaît généralement comme ultra-réactionnaire.
Mais vous avez mis les démocraties au pluriel.
J'ai mis les démocraties industrielles, parce que ce qui est décadent dans cette affaire, selon moi, c'est le modèle industriel lui-même. Non pas le capitalisme en tant que tel. Qu'étant très inspiré par le marxisme dans ma façon de penser, y compris dans ce livre, puisque je reprends beaucoup des analyses de Marx, j'ai adopté un point de vue, on pourrait presque dire du réel politique, qui consiste à dire que le capitalisme est très probablement encore là pour longtemps, parce que nous ne voyons se dégager aucune alternative à ce modèle, que ce modèle est très ravageur, mais qu'en même temps, moi ce qui m'inquiète, ce serait qu'il disparaisse vite. Parce que je crois que s'il disparaît vite, nous disparaîtrons avec lui. S'il disparaît, ça sera une catastrophe qui sera pas une catastrophe faite au sens de tout à l'heure. C'est un dernier épisode d'une histoire qui commencera une autre histoire, mais la pure et simple fin de l'humanité sur la Terre. Donc mon souci est de développer une analyse et une critique du capitalisme. Je dis critique au sens kantien, c'est-à-dire vraiment une critique philosophique, non pas pour en finir avec le capitalisme, mais pour empêcher le capitalisme de s'auto-détruire.
Ouais. Donc la décadence, c'est une crise, une crise du modèle industriel, et Stigler n'est pas Spengler.
Non, je ne suis pas Spengler du tout. Ce n'est pas ça le modèle, effectivement. Ce que j'appelle décadence ici, c'est un processus de décomposition. C'est-à-dire que je mène ici des analyses toujours avec le même appareil de fond, qui est le concept d'individuation psychosociale de Gilbert Simondon, et j'essaie de montrer que le capitalisme est un stade de l'individuation occidentale, psychosociale, qui est caractérisé par le fait que l'Occident a commencé à se constituer comme individuation collective, c'est-à-dire comme une singularité donnant lieu à une civilisation que nous appelons l'Occident. Lorsque c'est mis en œuvre ce que j'appelle un processus de grammatisation, je dois cette expression à Sylvain Auroux et aussi à Jacques Derrida en partie, et ce processus de grammatisation qui était une certaine conservation de la mémoire et administration de la mémoire qui a donné lieu à la géométrie, à tout le savoir occidental, puis à la Bible aussi, et à finalement cette romanité qui va conjuguer les Grecs avec l'Ancien et le Nouveau Testament, ça donne l'Occident qui ensuite devient une machine à la fois de conquête militaire et de conquête économique qui va aboutir au développement du capitalisme selon Braudel, du capitalisme selon Weber, et finalement du capitalisme selon Marx. Ce que je crois, c'est que ce capitalisme selon Marx, il déploie un nouveau stade de ce que j'appelle la grammatisation, qui est le développement de la machine en tant qu'elle est capable de reproduire du geste et de le discrétiser, et en le discrétisant de le rendre reproductible, elle va produire la figure du prolétaire, qu'est l'ouvrier devenant un producteur asservi au mode de reproduction de la machine qui l'a privé, en fait, de son savoir-faire. Puisque c'est comme ça que Marx définit le prolétaire. Marx dit le prolétaire, c'est le travailleur qui n'a plus d'autre patrimoine ou capital que sa propre force de travail, mais son savoir-faire est passé dans la machine. Donc lui a complètement échappé. Ça n'est plus un ouvrier. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'au XXe siècle, c'est le consommateur qui est prolétarisé. C'est-à-dire que au XXe siècle, à travers les industries culturelles, à travers l'informatique, à travers maintenant les télécommunications, à travers l'intégration numérique de toutes ces technologies qui sont des technologies de l'esprit, ça c'est très important, au départ en tout cas, le consommateur est progressivement privé de ce que j'appelle ses savoir-vivre. C'est-à-dire que, lentement mais sûrement, le marketing lui fait adopter par ces technologies de l'esprit, qui sont un nouveau stade de la grammatisation, qui succède à la grammatisation par la machine, au sens de la machine de Marx, le consommateur est configuré, profilé, comme on dit aujourd'hui, par des dispositifs, et ces dispositifs le privent de sa capacité à développer ses propres savoir-vivre, c'est-à-dire de ce que j'appelle son existence. Et cela développe une situation extrêmement inquiétante, qui est tout à fait actuellement attestée par d'innombrables indices. Le plus récent a été rapporté par le journal Le Monde la semaine dernière, qui faisait référence à une réunion au sommet qui a eu lieu entre des publicitaires, des magnats de la publicité française, et dont le président de la chambre syndicale disait « il faut que nous brisions l'indifférence du consommateur ». Nous sommes arrivés à un stade où les techniques de prolétarisation du consommateur, c'est-à-dire de privation pour le consommateur de son individualité, de sa singularité, de massification du consommateur, on finit par engendrer chez le consommateur un dégoût de la consommation.
Ouais. Donc ce que vous nous dites, Bernard Stiegler, c'est que la culture devient une fonction stratégique de l'activité industrielle.
Ça a commencé au XXe siècle, début du XXe siècle aux États-Unis. J'ai eu déjà plusieurs fois commenté une phrase que je recite à nouveau ici parce que je la trouve absolument cruciale et je pense que les hommes politiques européens n'y ont absolument rien compris. C'est cette phrase citée par Jean-Michel Frodon, « Trade follows films », « Le commerce suit les films », prononcée en 1912 à Washington, au Congrès. Il y a pratiquement 90 ans de cela, déjà, il y a 88 ans, déjà, les Américains ont compris que le cinéma devient la condition du contrôle du comportement du consommateur et donc de la conquête commerciale qui est la clé de la conquête industrielle. Ce n'est pas les gains de productivité au XXe siècle qui font l'efficacité de l'entreprise industrielle capitaliste. C'était le cas au XIXe siècle. Mais au XXe siècle, ça n'est plus le problème. Le problème du XXe siècle, c'est les économies d'échelle sur des marchés toujours plus vastes.
Ouais, le combat, c'est la bataille des flux.
C'est la bataille des flux et en particulier des flux libidinaux. C'est-à-dire que le capitalisme va mettre en œuvre tout un ensemble de techniques, de technologies, au sens de machines. Et j'essaye d'analyser comment les machines analogiques, numériques, etc., sont au service de cette dépossession et du contrôle de la libido. Mais par ailleurs, il s'agit de capter le temps de l'attention des consommateurs en les insérant dans des flux qui sont des flux de radio, de télévision, de films, des flux de toutes sortes qui visent à faire que l'énergie libidinale du consommateur soit mise au service du développement du marché.
Et c'est pour ça que votre penseur de référence est le président de TF1.
En effet, il se trouve que il y a eu un concours de circonstances étrange quand j'ai décidé d'écrire ce texte. Vers le 20 juin, quelque chose comme ça. J'ai commencé à rassembler les notes parce que je pars toujours du 15 juillet au 15 août pour écrire un livre. Et tout à fait début juillet, il s'est passé deux choses intéressantes. La première, c'est que le 15 juillet, il y avait un article dans le journal Le Monde qui rapportait qu'un institut qui s'appelle l'IRI avait été commandité par la grande distribution pour analyser les causes de la baisse de la consommation des produits de grande consommation. Et une baisse qui n'a pas des causes économiques, c'est-à-dire qui n'est pas liée à des problèmes de pouvoir d'achat, de choses comme ça, mais qui est une désaffection pour ces produits-là. L'étude a rapporté qu'il y avait un phénomène de rejet de la consommation qui commençait à se dessiner. Et c'est la première fois qu'était identifié ce processus par des grands industriels et des distributeurs. Très peu de temps avant, le président directeur général de TF1, Monsieur Patrick Lelay, avait fait ses déclarations qui avaient énormément de bruit, mais je souligne tout de même que pratiquement aucun homme politique ne l'a commenté. Pratiquement aucun. C'est pas tout à fait vrai. Jacques Rallit en a dit un mot et on m'a dit qu'Arnaud Montebourg en avait dit un mot. Mais pratiquement aucun ténor représentatif d'une grande force politique n'a dit un mot de cette phrase que tout le monde a en tête, mais je la répète quand même. Il dit précisément ceci. Soyons réalistes. Le business de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Chacun de ces mots mériterait une analyse, à commencer par cet impératif. Soyons. Et le sens de cet impératif, le prédicat réaliste. en quelque sorte, mon livre est un débat sur qu'est-ce que c'est qu'être réaliste aujourd'hui. Moi, je dis que M. Le Lay n'est absolument pas réaliste, et que contrairement à ce qu'il croit, il est en train de tuer la poule aux œufs d'or, en quelque sorte. Il est en train de tuer par un dispositif qui consiste à capter, mais quand je dis « il », je veux pas désigner M. Le Lay en tant que tel, ni même TF1, c'est tout un processus qui a été, je dois le dire, je veux le répéter, engagé par François Mitterrand dans les années 80 en France, avec cette idée qu'avait le président Mitterrand, qu'il fallait être moderne et qu'il fallait passer à l'acte de la privatisation de la télévision, avec en plus Berlusconi. Hein, bon. Je fais pas un procès à M. Le Lay ou à la droite, ou à la... je fais un procès à personne, j'analyse un processus par contre. Il y a un processus qui s'est mis en place, et qui a consisté à ce que, en France, c'était déjà le cas aux États-Unis depuis pratiquement l'origine, on a soumis, pas exclusivement, fort heureusement, France Culture, Radio France sont des témoins du fait que c'est pas exclusif, mais on a soumis les médias audiovisuels à une règle qui est d'être au service de Coca-Cola et de la consommation. Et moi, je crois que cette démarche est autodestructrice. Parce qu'on voit bien que si on corrèle cela, qui a été, je me souviens plus de la date exacte, du moment où on a révélé ce propos de Patrick Le Lay, mais enfin c'était vers le 10 juillet. Si on corrèle cela à l'article qui est paru le 15 juillet dans Le Monde et qui dit « la consommation est en train de baisser », ça prouve que ce système ne fonctionne plus. Et s'il ne fonctionne plus, c'est parce que, j'appelle ça un système de contrôle libidinal destructif.
Et ça, c'est ce qu'on appelle la mondialisation.
C'est une manière de voir la mondialisation, bien évidemment. C'est évidemment très directement lié à la guerre économique en quoi consiste la mondialisation. Car de fait, aujourd'hui, pour un grand groupe industriel comme PSA ou comme Renault, exister, ça veut dire exister en Chine. Ça veut dire exister en Australie, ça veut dire... bon. Et donc, la guerre est absolument féroce. Et qu'est-ce que ça veut dire exister en Chine? Ça veut dire aussi percer les barrières esthétiques qui existent en Chine pour arriver à produire un modèle comportemental dont je note en passant aussi, la presse m'inspire beaucoup en ce moment, que un article est paru encore récemment, au mois de septembre, sur les nouveaux riches chinois, le haut du panier de la nouvelle classe moyenne, qui gagne beaucoup d'argent, puisqu'on est dans un capitalisme qui est extrêmement spéculatif et donc qui rapporte énormément d'argent. Ce sont des gens qui s'enrichissent extrêmement vite, mais on a constaté une nouvelle pathologie en Chine. C'est que ce sont des gens qui vont en dépression nerveuse, qui ont des problèmes psychiatriques importants. Ces gens-là, précisément, ça a été étudié, c'est devenu un problème sanitaire en Chine, et ils disent qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à ce modèle de la consommation et que donc ils ne se retrouvent pas finalement dans ce... C'est intéressant, ce fait-là qui vient de la Chine et de l'Asie. Quoi qu'il en soit, je crois en effet que ce que j'appelle la décadence des démocraties industrielles, c'est la décadence d'un modèle industriel qui est désormais en voie d'épuisement. Mmh. Il n'est évidemment pas complètement épuisé, fort loin de là, mais on voit des signes très nombreux de cet épuisement. Et alors j'avais déjà commencé à analyser ça dans le cas de Richard Durne dans Aimer, s'aimer, nous aimer, puisque j'avais essayé de montrer que Richard Durne avait un problème d'identité, ou plus exactement de ce que j'appelais une perte de narcissisme primordial liée à ce système de la massification des esprits par les médias, et que ça l'avait conduit à la folie et à la folie meurtrière, parce que le prix de tout ça, c'est que quand la libido se délie, ça donne la disparition du surmoi. Donc ça ne peut que produire de la violence. Et on voit en ce moment, évidemment, partout, que ce soit ce qui était mis en scène par deux films aux États-Unis autour de ce lycée à Columbine, ou que ce soit Richard Durne, ou que ce soit le 11 septembre, ou que ce soit tant d'autres choses, Abu Ghraib, etc. Comment une extrême violence mondiale se développe avec cette mondialisation? Et cela me conduit à soutenir cette thèse qui est que si l'Europe veut se construire, il faut qu'elle invente un nouveau modèle industriel. Et quand je dis inventer un nouveau modèle industriel, ça n'est pas du tout reprendre ces vieilles sirènes de la social-démocratie que serait par exemple ce qu'on appelait l'économie mixte, c'est-à-dire associer le milieu associatif avec le capitalisme ou ces choses-là. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on entend parler de ce genre de choses. Non, c'est pas du tout ça. Ça signifie que les technologies qui sont en train de se développer aujourd'hui et qui tirent le capitalisme en avant sont de deux sortes. Ce sont des technologies du vivant. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais j'en parlerai pas parce qu'on peut pas parler de tout à la fois. Et les technologies d'information et de communication. Or, ces technologies d'information et de communication, Si on les regarde dans le temps de la longue histoire, la longue durée, eh bien, elles font partie de ce que Michel Foucault appelle les hypomnémata, et que j'avais moi-même appelé, après Platon et après Derrida, les structures hypomnésiques, c'est-à-dire les supports de mémoire artificielle. Je suis tombé un tout petit peu par hasard, parce que je connais pas tout Michel Foucault, sur un texte de Foucault, il y a un an et quelques, qui a été publié dans la revue Corps Écrit, cette très belle revue, qu'il a écrit donc en 1983, peu de temps avant sa mort, et qui s'appelait, l'article, L'écriture de soi. Foucault montrait comment, en particulier depuis les épicuriens et les stoïciens, mais ça se poursuit après avec les chrétiens primitifs, les anachorètes, les cénobites, puis ça se poursuit dans les pratiques des ordres monachiques plutôt. Il y a dans la culture de la spiritualité, de la croyance en Dieu, ou de la croyance en soi. Chez un stoïcien, on n'est pas dans la croyance en Dieu, mais dans une certaine affirmation de l'individuation de l'individu. Ce qu'on appelle donc la culture de soi, ce que Foucault va appeler la culture de soi. Le souci de soi. Ça n'a pas été publié, les textes dont je parle là, dans le livre qui s'appelle Le souci de soi d'ailleurs, hein, puisque il a publié ça peu de temps avant sa disparition. Par contre, il voulait en faire un livre qui avait pour titre Le gouvernement de soi et des autres. C'était donc un livre très politique qui était prévu. Foucault donc montre dans ce petit texte absolument admirable comment la culture de soi passe par la pratique de ce qu'il appelle les hypomnémata. Que sont les hypomnémata? Ce sont tout simplement les livres, les pratiques épistolaires, les techniques de mémoire artificielle, et qui permettent à l'individu de sans cesse se pratiquer lui-même en pratiquant ces techniques du soi et en pratiquant l'écriture, la lettre, la lecture, etc. Alors il y a des textes magnifiques de Sénèque là-dessus que commente beaucoup Foucault, et j'en parle pour deux raisons, là maintenant ce soir. La première raison, c'est que Max Weber, lorsqu'il s'intéresse à la figure du capitaliste, parle aussi d'hypomnémata. Il dit la condition d'apparition du premier capitaliste en Pennsylvanie au XVIIIe siècle, c'est le livre de comptes. Or Foucault dit aussi, lui, dans son texte, les hypomnémata, ce sont d'abord des livres de comptes. Il se trouve que les hypomnémata, c'est tout ce que Platon a condamné dans le Phèdre, à savoir la mnémotechnique qui se substitue à la mémoire vivante. Tout mon travail a consisté, en reprenant une problématique qui a été soulevée par Derrida, à finalement étendre toute cette problématique à la technique en général, pour montrer que la technique est toujours une technique de mémoire, mais en même temps qu'il y a, dans la technique en général, des techniques de mémoire qui sont faites à proprement parler pour gérer la mémoire collective, pour la cultiver, pour la faire se développer, pour participer à l'individuation psychosociale, en particulier de l'Occident, ce qui donne ce que j'appelais tout à l'heure la grammatisation. Aujourd'hui, nous vivons avec le développement technologique, téléphone portable, micro-ordinateur, iPod, télévision, home cinéma, enfin tout ce que vous voulez, GPS dans les taxis, qui, en fait tout ça c'est le même système aujourd'hui, c'est le système de communication et d'information numérique qui est complètement en train de s'intégrer. Nous vivons l'âge des hypomnémata généralisés, y compris dans le domaine biologique, parce qu'on est en train de transformer les molécules du vivant en dispositifs qui sont des hypomnémata. Des techniques de mémorisation, alors là, du vivant lui-même, de l'individuation du vivant. Ces dispositifs appellent une politique, ce que j'appelle une économie politique de l'esprit. J'appelle même ça, pour être plus précis, une économie politique industrielle de l'esprit. Et là, je me réfère à Paul Valéry. Paul Valéry a écrit de très nombreux textes sur ces questions.
Vous le citez d'ailleurs pas mal. Hein,
je le cite souvent, et je cite en particulier un texte qui se trouve dans Regard sur le monde actuel. J'avais beaucoup cité dans un autre ouvrage les textes de 1923, La crise de l'esprit, puisque Paul Valéry revient à plusieurs reprises, à nombreuses reprises, mais en particulier à deux moments extrêmement importants dans l'histoire du XXe siècle. 1923, après la Première Guerre mondiale, il tire en quelque sorte les conséquences spirituelles de cette Première Guerre mondiale. Et c'est là qu'il avance cet énoncé célébrissime, les civilisations sont mortelles. Ça fait partie de ce que j'appelais la catastrophe tout à l'heure. Et en 1939, c'est-à-dire très peu de temps avant la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, il annonce que l'économie de l'esprit est en chute libre, tout comme le dollar est en chute libre aujourd'hui, si vous voulez, qu'il dit la valeur esprit a perdu ce dans quoi nous, enfin les hommes d'autrefois, investissaient fondamentalement, et il annonce que ça prépare des éléments catastrophiques. Et c'est extrêmement frappant de voir que 6 mois plus tard, la guerre éclate, que le nazisme va remporter cette guerre, et que finalement, on va voir les ravages absolument catastrophiques, là, pour le coup, de ce qui va concrétiser, ce qui est une expression, une concrétisation de l'analyse de, pour moi, en tout cas, de Paul Valéry. Paul Valéry qui parle beaucoup de la radio, des médias, etc., qui s'intéresse de tout ça et qui ne méprise absolument pas cela. Il n'oppose absolument pas Paul Valéry, qui est poète, qui est poéticien aussi, pas simplement poète, qui est un grand penseur, qui connaît très bien la physique, les mathématiques, qui est un érudit de très haut vol, un spécialiste du ver antique, etc. Il ne méprise absolument pas la technique et la technologie, mais il dénonce le défaut de politique de cette technique et de cette technologie. Pour ma part, je reprends à mon compte cette dénonciation. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Europe doit élaborer une politique industrielle de l'esprit. D'abord parce que l'Europe est un haut lieu de l'esprit. Je voudrais pas dire du tout que l'Amérique n'est pas un haut lieu de l'esprit. L'Amérique est devenue un très haut lieu de l'esprit aussi. Mais l'Europe a une histoire spirituelle extrêmement profonde qu'elle doit rejouer dans l'avenir et non pas dans le passé. Et rejouer ça dans l'avenir, ça veut dire aussi prendre conscience qu'il faut une politique publique de l'esprit. Que si, par exemple, on réfléchit un tout petit peu à ce qui se passe avec les téléphones portables qui comportent des appareils photographiques. Moi, je connais assez bien ce secteur, parce que j'ai travaillé à l'INA, j'ai beaucoup travaillé dans la recherche audiovisuelle. Il y a longtemps que l'on sait que ces appareils vont être capables d'embarquer comme ça toutes sortes de choses. On a annoncé là, il y a la semaine dernière, que UMTS est maintenant fonctionnel, donc ce qu'on appelle les téléphones 3e génération sont en train de rentrer en service, et la télévision va apparaître sur le téléphone. Mmh. C'est déjà le cas au Japon.
0,50 centimes d'euros la minute. Hein.
Alors, 0,5 centimes d'euros la minute, c'est le prix du temps de conscience sur TF1. C'est 5 centimes d'euros, exactement. C'est 5 centimes d'euros. Parce que si vous calculez effectivement, ce que gagne TF1 en une heure, quand il y a 15 millions de téléspectateurs en train de regarder, vous pouvez calculer que une heure de conscience sur TF1 vaut 5 centimes d'euros. 20 centimes de francs. Ça ne vaut pas cher. Mais je pense que ça ne vaut pas cher parce que on a perdu la mémoire du fait que pendant des siècles, l'esprit était l'objet d'une attention toute particulière qui relevait de ce que j'appelle, pour commenter Foucault, lui-même n'emploie pas le mot, mais je réactive un mot ancien, l'osium. À savoir les pratiques hypomnésiques dont je parlais tout à l'heure, les pratiques des moines, des stoïciens, mais qui sont devenues monnaie courante au 19e siècle, puisque qu'est-ce qui se passe lorsque Jules Ferry dit au 19e siècle, on va prendre 20% ou 30% du budget de l'État,